Dans le livre des Nombres, au chapitre 20, nous allons lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 21. Livre des Nombres, chapitre 20, verset 1er. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tsin le premier mois. Et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer, et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. » Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau ?» Puis Moïse leva la main et frappa deux fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont les eaux de Meriba, où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel qui fut sanctifié en eux. » De Kadès, Moïse envoya des messagers au roi d'Édom, pour lui dire, « Ainsi parle ton frère Israël. Tu sais toutes les souffrances que nous avons éprouvées. Nos pères descendirent en Égypte et nous y demeurâmes longtemps. Mais les Égyptiens nous ont maltraités, nous et nos pères. Nous avons crié à l'Éternel et il a entendu notre voix. Il a envoyé un ange et nous a fait sortir de l'Égypte. Et voici, nous sommes à Kadès, ville à l'extrémité de ton territoire. Laisse-nous passer par ton pays. Nous ne traverserons ni les champs, ni les vignes, et nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivrons la route royale, sans nous détourner à droite ou à gauche, jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. » Édom lui dit, « Tu ne passeras point chez moi. Sinon, je sortirai à ta rencontre avec l'épée. » Les enfants d'Israël lui dirent, « Nous monterons par la grande route, et si nous buvons de ton eau, moi et mes troupeaux, j'en paierai le prix. Je ne ferai que passer avec mes pieds, pas autre chose. » Il répondit, « Tu ne passeras pas. » Et Édom sortit à sa rencontre avec un peuple nombreux et à main forte. Ainsi Édom refusa de donner passage à Israël par son territoire. Et Israël se détourna de lui. Amen. Le passage que nous venons de lire ensemble dans la parole de Dieu, eh bien, nous présente un épisode très pénible de l'histoire d'Israël dans le désert. Et puis, nous présente aussi un moment très difficile que Moïse a dû endurer et qu'il a connu à cause de cette sorte de révolte de ce peuple qui ne comprenait pas la raison pour laquelle il traversait une période difficile. Il ne comprenait pas pourquoi Dieu les avait conduits dans ce désert où, comme nous avons pu le lire, et comme ils le disent eux-mêmes, il n'y avait ni grenadier, ni figuier, ni eau à boire, c'est-à-dire rien de ce que l'on peut attendre, que l'on peut espérer. Mais Dieu était pourtant avec eux. Et dans le passé, Dieu avait déjà démontré pendant 40 ans sa fidélité. Puisque, notamment dans le livre du Deutéronome, il est dit que Dieu a suivi ce peuple pendant 40 ans et que pendant 40 ans, il l'a nourri et de telle façon, il l'a conduit que même ses habits ne s'étaient pas usés, les chaussures non plus, c'est-à-dire qu'ils avaient vécu d'une manière permanente dans le miracle de Dieu. Et maintenant, malgré l'épreuve, malgré la souffrance dans laquelle ils se trouvent, ils ont quand même une perspective. C'est-à-dire qu'ils sont tout près de ce pays de la promesse. Et ce qui est surprenant, c'est que ni ce que Dieu a fait pendant 40 ans, ni la perspective d'un beau pays avec des richesses considérables, un pays où coule le lait et le miel, qui avait été annoncé par Dieu, un Dieu fidèle, qui lorsqu'il dit une chose, il l'accomplit, rien de tout cela n'a pu donner un espoir à ce peuple, et ils étaient là, dans le murmure, dans l'inquiétude, dans la souffrance intérieure, dans l'incrédulité et dans la révolte contre les hommes de Dieu que l'Éternel avait placés comme leader pour les diriger et pour les conduire. Je dis bien, ils étaient à la porte du pays de la promesse. Vous savez, dans ce sens, ce peuple est un peu un type de l'Église à l'heure actuelle. Pour quelle raison? Parce que, certainement que, comme moi, vous vous rendez compte que nous sommes en train de vivre les derniers instants de l'ère de la grâce. Mes frères et sœurs, nous sommes tout prêts d'entrer dans le pays de Canaan. Nous sommes tout prêts du retour de notre Seigneur. Nous sommes tout prêts d'entrer dans cet héritage qui est devenu notre partage à cause de ce que Christ a accompli en notre faveur. Mais nous sommes encore dans le désert. Le pays de Canaan, je voudrais le souligner ce matin. Mes chers frères et sœurs, ce n'est pas seulement le ciel avec sa gloire dans lequel nous entrerons un jour, dans lequel nous serons pour l'éternité, mais le pays de Canaan, c'est déjà la possibilité de le connaître ici-bas sur la terre par la puissance et la présence du Saint-Esprit dans nos vies et dans nos cœurs. Nous nous sommes bien souvent poussés à croire que le ciel, c'est après la mort. Je voudrais vous rappeler un cantique qui était interprété autrefois et qui disait par exemple ceci, « Je voudrais te voir, mon frère, venir à ces vives eaux. » Souvenez-vous de la suite. « Jouir déjà sur la terre d'un ciel si parfait, si beau. Lorsque le Seigneur était ici-bas sur la terre, une des choses qu'il a dites à ses disciples, c'est ceci. Le voleur, il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis le bon berger. Et je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Non pas une vie étiolée, une vie médiocre, une vie faite de murmures, une vie faite de plaintes, une vie qui, malgré les souffrances et les épreuves du temps présent, eh bien, manifeste un esprit de louange et d'adoration, parce que qu'est-ce qui peut nous arriver qui n'ait été permis par Dieu? Et si Dieu l'a permis, ce n'est jamais pour nous anéantir, mais c'est toujours pour notre bien. Parce que tous, nous devons savoir que la volonté de Dieu, elle est bonne, elle est agréable et elle est parfaite. Il ne permet jamais rien dans notre existence qui ne soit pour notre bien. Est-ce que vous en êtes convaincus? Et là, eh bien, le peuple de Dieu s'est retrouvé dans une situation très pénible. Et d'ailleurs, avez-vous remarqué l'expression qui se trouve dans le texte? Il parle à Moïse et à Aaron et ils disent « Vous nous avez amenés dans ce méchant lieu ». Il y a des moments dans notre vie où nous sommes obligés de considérer qu'il n'y a rien d'agréable à connaître de tels moments. Mais il y a un texte de l'Écriture que nous citons souvent, que nous connaissons bien, et qui dit ceci. Qu'est-ce qui va nous séparer de l'amour de Dieu qui a été manifesté en Jésus-Christ? Serait-ce la maladie? Serait-ce les tribulations? Serait-ce la mort? Serait-ce d'autres choses très pénibles qui peuvent nous arriver? Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Et l'apôtre continue et il dit, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu qui est manifesté en Jésus-Christ. Mais nous avons tendance à oublier cela. C'est la raison pour laquelle le rôle du Saint-Esprit est toujours de nous rappeler que Christ règne sur toutes les circonstances. Et même quand la terre tremble, même quand il y a des moments extrêmement douloureux, même lorsque nous sommes épuisés physiquement, même lorsque nous sommes dans des moments de souffrance extrême, le Seigneur est là, à côté de nous. Il nous suit et il connaît tout de notre vie, il connaît tout de notre cœur. Ici, le peuple est là, tout près d'entrer. Malheureusement, il se passe quelque chose. Alors qu'ils sont dans cet état de révolte, Marie meurt. La parole de Dieu nous dit dans le livre du prophète Michée, et c'est au chapitre 6 et au verset 4 que vous trouverez cela. Dieu parle au travers de ce prophète et il dit « J'ai envoyé devant vous Moïse, Aaron et Marie ». Moïse, c'est un type de Christ. Aaron, c'est le type du sacerdoce que Christ exerce pour nous, à notre faveur, dans la gloire. Marie, la prophétesse, c'est un type de cet esprit de louange et d'adoration qui doit être le partage de chacun de ceux qui suivent le Seigneur, qui l'aiment et qui marchent avec lui. Or là, elle meurt. C'est comme si la voix de la louange, d'un seul coup, était étouffée. La voix de la louange se tait, elle disparaît. Et vous vous souvenez certainement comment Marie, lorsque le peuple a traversé la mer Rouge et que tous ensemble, ils ont constaté que Dieu venait de leur accorder une victoire formidable, puisque Pharaon avait été englouti par la mer, toute son armée a été engloutie par l'eau. Tout le monde se rend compte que Dieu a accompli un miracle formidable. Alors Moïse écrit un cantique et lui, il met en relief que Dieu vient d'accorder un grand salut à ce peuple. Et il y a un refrain, et dans ce refrain, il est dit que Dieu a englouti dans la mer le cavalier et également toute l'armée de Pharaon, toute l'armée d'Égypte. Et elle, eh bien, qu'est-ce qu'elle a fait ? En entendant ce cantique qui était chanté par le peuple de Dieu, elle a repris juste ce petit refrain. Dieu a englouti le cavalier dans la mer. Elle a pris un tambourin. Elle était accompagnée des femmes d'Israël. Et toutes ensemble, elles glorifiaient Dieu. Elles chantaient Dieu. Eh oui, c'est facile de louer Dieu quand on vient de voir un grand miracle. C'est plus difficile quand nous traversons les moments où nos yeux ne peuvent pas voir le miracle de Dieu, mais n'empêche que Dieu est toujours là. Et nous ne louons pas Dieu seulement quand il nous accorde ses dons, mais nous le louons toujours pour ce qu'il est. Si nous le louons que lorsque nous venons de constater un exploit qu'il a réalisé en notre faveur, ça veut dire que nous avons seulement dans notre cœur la reconnaissance, excusez l'expression, du ventre. Vous savez, dans la Bible, il y a trois manières d'exprimer, je dirais, la reconnaissance. Il y a, par exemple, celle que David a utilisée quand il dit à un moment donné, « Je te loue, Seigneur, je te loue, parce que tu entends ma supplication et que tu y réponds. » C'est facile. C'est la louange la plus simple, c'est celle qui jaillit naturellement de notre cœur, parce que nous venons de constater, Dieu a exaucé la prière. Mais il y a un autre niveau, c'est le niveau où par exemple David aussi s'exprime en ces termes, et il dit, oubliant tout le reste, « Tu es le plus beau des fils de l'homme ». C'est-à-dire là, il ne voit pas le fait d'avoir été exaucé dans ses prières, d'avoir reçu des bénédictions de la part de Dieu, mais il le contemple lui. Et le contemplant lui, il est pleinement satisfait. En regardant à lui, il est rempli d'un esprit de louange et d'adoration. Mes frères et sœurs, écoutez bien, Marie, symbole de cet esprit de louange, est morte. Et quand elle est morte, alors il y a eu la place pour les murmures. Il y a eu la place pour les plaintes. C'est systématique. La louange descend, la murmure et les plaintes montent. L'heure de la tentation est venue. Mériba, ça signifie exactement cela. On commence maintenant à se plaindre. Et Dieu entend cela. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Et s'il vous plaît, retenez bien ceci. Dieu n'a pas mis ce passage-là entre nos mains en le mettant dans son écriture pour que nous jugions seulement ce peuple et en mettant en exergue la faiblesse de ce peuple. Mais il a écrit pour que nous puissions voir quelque chose d'infiniment plus grand, plus glorieux, qui va nous inciter à la louange. C'est-à-dire qu'il va leur montrer comment dans les temps les plus difficiles, lui, il a un moyen toujours en réserve pour nous secourir, et ce moyen-là s'appelle la grâce. Vous voyez ? En face d'un peuple en révolte, en face d'un peuple qui se plaint, Dieu ne va pas faire de reproches, mais il va leur montrer ce qu'est sa grâce qui est capable de nous secourir dans tous nos moments de faiblesse. Alors, voyons un petit peu comment ceci s'est passé. Moïse et Aaron sont comme décontenancés. Que vont-ils faire devant les plaintes du peuple? Comment vont-ils agir? Bon, nous savons, parce que l'Écriture le met en relief, eux, ils ont un secret formidable. Chaque fois qu'ils se trouvent en face d'une situation difficile, eh bien, ils s'éloignent d'abord du peuple. Avez-vous remarqué? C'est exactement ce que dit le verset 6. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée. Il y a des moments où il faut se retirer un peu. Et au moment où ils se sont retirés de l'assemblée pour ne pas écouter les murmures, pour ne pas écouter les plaintes, remarquez bien, eux non plus n'ont pas fait de reproche, ils n'ont pas, eux, réagi à cette action qui était pour eux très douloureuse. Mais ils se sont éloignés et ils se sont approchés de l'Éternel et il est dit, ils tombèrent sur leur visage et à ce moment-là, la gloire de l'Éternel leur apparut. Vous savez, quand on voit la gloire de l'Éternel, ça dissipe tout le reste. Les nuages disparaissent. La peine intérieure disparaît. Je dirais que même dans une douleur profonde, on reçoit de lui une paix qui surpasse toute intelligence. Ça, c'est quand la gloire de l'Éternel apparaît. Et eux, ils sont allés pour parler à Dieu de tout ce qu'ils avaient entendu, de tout ce qu'ils voyaient, de tout ce qu'ils constataient. Et remarquez une chose, au verset 8, Dieu parle. Et il ne dit pas, « Ah, que ce peuple est rebelle, mais ce peuple, il est terrible !» Combien il est difficile, combien il est incrédule. Il y a longtemps que j'ai prouvé ma fidélité. Pendant 40 ans, j'ai marché avec eux. J'ai vu leurs tentations, j'ai vu leurs chutes. Et je suis toujours intervenu pour les secourir, pour les aider. Comment se fait-il qu'ils n'ont pas encore compris rien de tout cela? Il parle à Moïse et il dit, prends la verge. Je m'arrête ici un instant. De quelle verge s'agit-il? Vous savez que Moïse, quand il a eu un premier contact avec Dieu, et que Dieu l'a appelé à le servir, l'a envoyé vers Pharaon, il avait un bâton à sa disposition, qui était le bâton d'un berger de cette époque. Et à un moment donné, il a dit, bon, je veux bien aller vers Pharaon, mais avec quoi vais-je me présenter devant lui? Que vais-je lui dire? Et comment est-ce que je vais lui faire croire que je suis en train de servir un Dieu qui est si puissant, si grand? Et Dieu lui a dit, prends ce bâton que tu as à la main, jette-le par terre. Et quand il l'a jeté par terre, il est devenu un serpent. Et Dieu lui a dit, saisis-le par la queue. Et il lui a montré là que finalement il lui donnait l'autorité sur la puissance des ténèbres, sur la puissance de Satan. La même autorité que Dieu a donnée à son Église. Parce que dans l'évangile de Marc, nous connaissons tous ce passage, il est dit que nous pouvons, nous aussi, prendre autorité sur la puissance des démons, sur la puissance du mal. Mais ensuite, il lui a donné un autre signe que vous connaissez, et il lui a dit, mets ta main dans ton sein. Et quand il l'a retirée de son sein, elle était remplie de lèpre. Il montrait ainsi, Dieu, que l'homme par lui-même, il n'est qu'impureté, il n'est que péché, le bien n'habite pas en nous. Tout est plaie, contusion dans notre être entier. Seulement, la grâce de Dieu nous lave et nous purifie. Nous sommes sanctifiés par sa divine puissance. Et puis, il lui a montré un autre signe, mais comme ce n'est pas le but de ma méditation, je vais m'arrêter simplement au cou de la verge. C'est ce bâton-là que Moïse a utilisé lorsqu'il a frappé la mer Rouge. C'était le bâton de son autorité, l'autorité que Dieu lui avait confiée. Mais maintenant, Dieu lui dit, prends la verge. Et au verset 9, il est dit, Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel. Sépare le bâton de son autorité, celle qu'il avait utilisée pour frapper les eaux de la mer qui, elle, s'est séparée en deux. Non, c'était ce fameux bâton qui avait bourgeonné, vous vous souvenez? Lorsque le peuple avait déjà murmuré et lorsque on se demandait qui était celui que Dieu choisissait comme le souverain sacrificateur, celui qu'il allait agréer. Et il a demandé à tous les chefs de tribus de se présenter dans le sanctuaire avec chacun leur bâton. Aaron est venu avec son bâton et vous savez ce qui s'est passé? Dieu a dit, je vous montrerai qui j'ai choisi. Et le bâton d'Aaron, eh bien, le lendemain, alors que c'était un bâton mort, était rempli de feuilles, rempli d'amandes. C'était le symbole de la puissance de la résurrection. Oh, mes frères et sœurs, nous avons là un signe particulier. Ce bâton d'Aaron qui avait bourgeonné, ce bâton d'Aaron qui représente la puissance de la vie de résurrection, est un type de la personne de Christ qui est dans le ciel, qui est vivant pour l'éternité et qui intercède pour nous. Et je vais vous dire, il est sur le trône de la grâce pour que nous nous soyons secourus dans tous nos moments de faiblesse. Ici, j'attire votre attention. Frères et sœurs, je n'ai plus besoin d'aller à la croix, comme je l'entends parfois, quand certains disent, nous allons retourner à la croix. La croix, elle est vide. Christ est mort, et il a été enseveli, et il est ressuscité. Quand je suis dans un moment pénible, quand je suis dans un moment où Satan m'attaque, quand je suis dans un moment de souffrance physique ou dans un moment de faiblesse, où est-ce que je dois aller? Non pas à la croix, mais selon ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, nous avons le trône de la grâce sur lequel se trouve le Seigneur vivant. Et comme lui a été tenté comme nous en toutes choses, mais qu'il a été vainqueur et que jamais il n'a succombé au péché, sa victoire peut devenir notre victoire quand nous l'invoquons simplement. Il a payé une fois pour toutes, maintenant nous lui parlons et il répond. Est-ce que vous le croyez ça? Nous lui parlons et il répond. Le Seigneur règne, il est sur son trône et il est capable de répondre à toutes nos prières, à toutes nos supplications. Et d'ailleurs, c'est étonnant, Moïse dit, que ferons-nous? Moïse et Aaron sont là, que ferons-nous? Et Dieu leur montre simplement ces deux éléments, la verge qui se trouve là dans le sanctuaire, et il parle d'une autre chose, d'un rocher. Or, tous ici, nous connaissons le texte qui se trouve dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 10, où il est dit qu'un rocher suivait le peuple, et il est donné le nom de ce rocher. Et le rocher qui suivait le peuple, c'est Christ. C'est-à-dire que la réponse à nos besoins, le secours dans nos problèmes, la solution pour toutes les choses, elle n'a qu'un seul nom, c'est Christ. Jésus est la réponse à tous nos besoins. Mais c'est surtout la grâce de Dieu. Mes frères et sœurs, si nous n'étions pas conscients de la grâce de Dieu, où serions-nous à l'heure actuelle? Nous sommes au bénéfice de cette grâce d'une manière permanente. Je m'adresse à quelqu'un ce matin pour dire, Dieu a vu tes moments de tentation. Dieu t'a vu dans tes échecs. Dieu t'a vu dans tes chutes. Dieu connaît ce qui s'est passé dans ta vie. Dieu sait combien parfois même tu es allé très loin, pas seulement dans tes plaintes et dans tes murmures, mais très loin dans la désobéissance à sa parole, et a connu un déclin spirituel très important. Mais je voudrais te dire ce matin, tout cela, Dieu le sait, mais Dieu t'aime. Et la grâce du Seigneur est ton partage. Je n'ai pas d'autre solution que de te dire, il y a un rocher duquel peut jaillir encore une eau formidable. Moïse, hélas, eh bien, a commis une faute en la circonstance. Quelle faute ? Il a bien entendu la voix de Dieu. Il a bien entendu la réponse de Dieu. Il a surtout bien entendu la solution que Dieu donnait à ce peuple dans une telle situation, dans ce lieu méchant, comme ils ont dit, ce lieu désertique. Tout cela, Moïse l'a entendu. Mais Moïse n'a pas pu arracher de son cœur cette sorte d'amertume qu'il avait, cette colère intérieure. Parce que lui, malgré que ce soit l'homme le plus patient de la terre, il a vu toutes les turpitudes de ce peuple, et maintenant, devant cette sorte de révolte, il n'en peut plus. Et quand il arrive devant le peuple, alors il ne va pas parler au rocher, comme Dieu lui a demandé de le faire, mais il va parler au peuple. Et il va parler au peuple comment ? En disant simplement ceci, « Alors, rebelle !» Et il les traite d'une manière que Dieu ne voulait pas qu'il les traite de cette façon-là. Et en agissant de cette manière-là, il ajoute un geste et il va frapper pour une seconde fois le rocher qui, souvenez-vous, avait été frappé premièrement avec la verge de l'autorité. Et ce rocher qui est Christ frappé, c'est l'illustration de Christ qui est mort une fois pour toutes sur la croix. Et c'est la raison pour laquelle, je vous disais tout à l'heure, on n'y revient pas. Mais lui là, il vient et il va frapper une deuxième fois le rocher. Mais j'ai fait exprès en lisant de mettre un peu un accent avec emphase sur cette expression. Moïse leva la main et frappa deux fois le rocher. Avec quoi ? Non pas avec la verge qui se trouvait devant, dans le sanctuaire, mais il est dit avec sa verge. Et quand il a fait cela, il a désobéi à Dieu. Et vous savez, toute désobéissance entraîne des conséquences. Dieu, lui, quand il parle, désire aussi que nous soyons attentifs et que nous soyons soumis. Eh bien, voilà l'erreur qui souvent est faite. Mes frères et sœurs, je le reconnais pour ma propre part. C'est vrai que des fois nous avons tendance à mettre les gens sous une loi et obliger les gens dans une certaine mesure à faire certaines choses. Je vais vous dire, mes chers frères et sœurs, si vous êtes ici ce matin par obligation, je vais vous parler avec mon cœur. Il vaudrait mieux que vous ne soyez pas là. Si vous faites quoi que ce soit parce que cela vous est imposé, sachez, mes frères et sœurs, que ça n'a aucune valeur aux yeux de l'Éternel. Si vous êtes là pour plaire à quelqu'un, je voudrais vous dire, ça aussi, ça ne peut pas être agréable à l'Éternel. Mais si vous êtes là parce que vous êtes convaincu de sa grâce et que sa grâce, vous inondant, vous permet de réaliser que vous êtes libre parce que le sang de Jésus, eh bien, nous a amenés à ce niveau-là. Alors, pourquoi ne pas louer ? Pourquoi ne pas adorer ? Pourquoi pas le servir avec joie ? Y a-t-il pour nous quelque chose de mieux que de servir le Seigneur dans la joie ? Et cette joie que seul le Saint-Esprit est capable de mettre en nous quand il nous a apporté la révélation de sa grâce. Remarquez comment Paul, par exemple, dans son épître aux Éphésiens, insiste et il dit « Vous êtes sauvés par grâce, vous êtes au bénéfice des richesses de sa grâce. » Et il insiste sur les termes « la grâce ». Évidemment, c'est un privilège formidable. Mais je n'oublie pas, mes frères et sœurs, que la grâce, elle nous pousse à l'exercice de la piété, parce que ce n'est pas parce que nous sommes sous la grâce que nous allons être négligents et continuer dans une vie de désobéissance. Ça s'appelle la grâce de Dieu changée en dissolution. Mais plus mes yeux s'ouvrent sur la réalité de la grâce de Dieu, plus je m'attache à lui, plus j'ai peur d'offenser mon Père, le Père céleste. Et plus alors, eh bien, mon cœur peut vibrer d'un amour réel et véritable pour le Seigneur. Mes frères et sœurs, si Marie est morte, je mets entre guillemets, si l'adoration a perdu de sa force, si la louange ne jaillit plus naturellement de nos cœurs, si tout cela a disparu sur le plan personnel, individuel et sur le plan collectif, eh bien, ne nous plaignons pas de la situation, mais cherchons Dieu en nous éloignant de tout cela. Allons le trouver, chacun pour notre propre part, dans notre demeure, cherchant le Seigneur dans son amour immense. Et vous allez voir comment il sera capable de nous montrer la voie de cette grâce qui relève. Qui me relève dans mes chutes? C'est Jésus-Christ. Qui prend soin de ses enfants comme un tendre père? C'est le Seigneur. Qui est capable de nous guider comme un berger peut guider ses brebis, sinon le divin berger que représente le Seigneur? Nous n'avons rien à craindre. Le Seigneur est là pour nous rassurer et nous dire seulement, prends conscience que ce n'est pas par l'autorité d'un homme, mais seulement par ma grâce que tout peut changer dans notre vie. Si nous oublions cela, nous allons nous confier aux hommes. Et la Bible dit, malheur aux hommes qui se confient en l'homme, mais béni soit l'homme qui se confie en Dieu. Remarquez une chose. Maintenant, eh bien, ils viennent de constater une deuxième fois que la grâce de Dieu pourvoit d'une façon formidable. Ils disent, il n'y a pas d'eau. Et au moment où, même en désobéissant, Moïse frappe le rocher une seconde fois, ce que Dieu ne lui a pas demandé, la grâce de Dieu pourvoit. Heureusement qu'il ne nous traite pas selon nos péchés. Hein? Heureusement. Et il fait jaillir l'eau, mais une eau abondante. Vous imaginez la joie qu'il a dû y avoir dans le cœur de ce peuple quand une nouvelle fois, ils ont vu ce miracle s'accomplir. Oh oui, c'est formidable, vous savez, le secours du Saint-Esprit. Il est à l'œuvre dans le monde entier et il est encore capable de renouveler cette effusion pour chacun d'entre nous si nous le cherchons vraiment de tout notre cœur. Parce que cette promesse, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein jusque dans la vie éternelle, elle est valable encore pour chacun d'entre nous. Vous êtes d'accord? C'est une réalité. C'est pourquoi il faut chercher le Seigneur. Mais je tiens à avertir, exactement comme la parole de Dieu nous avertit. Ils viennent de voir le miracle, et maintenant ils sont prêts à foncer, à aller de l'avant. Ils sont tout prêts, sauf que, justement à cause de ce qui s'est passé, Moïse ne pourra pas entrer dans le pays promis. Dieu lui montre que l'obéissance vaut mieux que tout. Et il dit, tu as fait ce que je ne t'ai pas demandé. D'abord, tu as parlé durement au peuple. Deuxièmement, tu as frappé le rocher une deuxième fois. Tu l'as fait avec ta verge au lieu de le faire. Et il n'aurait certainement pas fait avec la verge d'Aaron, puisque cette verge qui était dans le sanctuaire, Elle n'était pas faite pour être frappée sur le rocher. Il fallait seulement, avec cette verge dans la main, parler au rocher. Et le rocher aurait donné l'eau. Comme je vous l'ai dit, si nous parlons à Christ, Christ est vivant, il va répondre. Mais voilà, Moïse ne va pas rentrer. Mais je vais vous dire, ça me semble dur. J'étais le premier souvent à dire, mais Seigneur quand même, pour un homme qui en a tellement vu, pour un homme qui a tellement souffert, pour un homme qui a dû être confronté à ce peuple pendant tant d'années, ça paraît quand même dur. Juste parce qu'il a désobéi là, tu ne rentreras pas dans le pays de la promesse. Écoutez bien, même pour lui, la grâce de Dieu s'est manifestée. Je vais vous dire pourquoi. Parce que dans le livre du Deutéronome, il nous est dit ce qui est arrivé tout de suite après. C'est, je crois, au chapitre 34 du livre du Deutéronome, où nous voyons Moïse, à 120 ans, gravir le mont Pisga. Et là, vous savez, je ne savais pas ça, mais ce mont-là se trouve à 1500 mètres d'altitude. S'il vous plaît, prenez en considération, Moïse avait 120 ans. Je suis loin d'avoir 120 ans, bien que je m'y rapproche quand même. Hein. Mais monter 1500 mètres, moi qui ai du mal à monter les escaliers pour venir ici, je me dis, c'est quand même extraordinaire ce que Dieu a fait avec cet homme. Oui, parce qu'il est dit que même à 120 ans, il était comme un jeune homme. Il avait une force formidable. Vous voyez, frère, vous ne plaignez pas avec vos 80 ans en passé. Pas besoin de se plaindre. 120 ans, lui. 120 ans. Et Dieu lui a donné la force. Écoutez bien, réfléchissons ensemble. Qu'est-ce qui valait mieux pour Moïse ? Monter le mont avec Dieu comme compagnon, arriver au sommet avec Dieu, et puis avec Dieu, regarder le pays de la promesse, ou alors ne pas connaître cette expérience-là et entrer dans le pays de la promesse, mais avec des gens qui se plaignent toujours. Qu'est-ce qui valait mieux ? Qu'est-ce qui valait mieux ? Voyez, la grâce de Dieu était aussi son partage. Mais quand Dieu punit, et c'est juste, la grâce se manifeste aussi. Et j'imagine que Moïse, eh bien, il a terminé sa vie là-haut, sur le sommet. C'est quand même extraordinaire. Quel enterrement formidable. Ah, il n'y avait pas la foule. Parce qu'aujourd'hui, n'importe quel imbécile, ah, pardon de l'expression, meurt, et on y trouve toutes les qualités, on va l'enterrer en grande pompe. Là, il était seul avec Dieu, mais c'est Dieu qui l'a enterré. S'il pouvait m'enterrer comme cela, je regrette pour mon épouse, hein. Mais ce serait formidable. Vous voyez bien la grande différence. Mais ce n'est pas tout. Maintenant, le peuple doit avancer. Et évidemment, il y a un chemin qui lui semble très favorable. Il y a le territoire d'Édom. Ah, c'est quoi ça ? Édom, qui c'est ? Le livre de la Genèse, au chapitre 25 et au verset 30, nous apprend que c'est le nom qui a été donné à Ésaü. Quand celui-ci, eh bien, s'est trouvé dans un moment difficile, il avait faim, et comme il avait faim, il a vu son frère arriver. N'oubliez pas, Ésaü était le détenteur du droit d'aînesse. Et il a parlé à Jacob. Et il a dit, donne-moi de ce roux-là, un plat de lentilles qui était appelé ce roux. La couleur rousse, c'est la raison pour laquelle, puisque Édom signifie cela, on lui a donné ce nom. Mais il a perdu quelque chose de grande valeur. Il a eu un plat de lentilles, mais il a perdu le droit d'aînesse. C'est quoi le droit d'aînesse ? Ça veut dire que S'il avait conservé ce droit d'aîné, ça lui donnait le droit d'être dans la lignée de laquelle plus tard allait venir le Messie, le Seigneur, le Fils de Dieu. C'est quand même quelque chose de formidable. Il a méprisé cela pour un plat de lentilles. C'est-à-dire que l'auteur de l'Épître aux Hébreux reprend cette histoire et il dit que parmi vous, il n'y a pas de profane comme Ésaü qui, pour un plat de lentilles, eh bien, a méprisé ce qu'il y avait de plus cher, quelque chose d'une grande valeur. Mais notez ici, il est dit au verset 14, à Kadès, Moïse envoya des messagers au roi d'Édom pour lui dire « Ainsi parle ton frère Israël ». Notez bien, « ton frère Israël ». C'est-à-dire que Édom est celui qui a le droit de porter ce titre, « frère ». Et dans le christianisme, il y a des hommes et des femmes que nous aurions tendance à appeler frères, mais avec lesquels il n'y a pas de possibilité de communion réelle et véritable. Pourquoi ? Parce que, précisément, ils s'opposent toujours, malgré leur religion et leur apparence de la piété, ils s'opposent toujours à la vérité de Dieu. Et vous savez, nous sommes appelés non pas à être de ceux qui ont l'apparence de la piété, mais la réalité, c'est-à-dire qu'ils exercent vraiment. Dans le christianisme et sous ce vocable-là, il y a toutes sortes de personnages qui peuvent dire qu'ils sont chrétiens. Vous savez, demandez à n'importe qui dans la rue « Est-ce que vous êtes chrétien ?» Et vous aurez de grandes chances d'en trouver beaucoup qui vont vous dire « Ah, mais oui, moi je suis chrétien. » J'ouvre une petite parenthèse. Vous savez, un jour, cet homme de Dieu dont vous avez certainement entendu parler, cet évangéliste mondialement connu, Billy Graham, se trouvait dans un avion et il y a quelqu'un qui est venu vers lui en titubant dans l'avion, lui a frappé sur l'épaule parce qu'il l'avait reconnu. Et il a dit « Ah, monsieur Billy Graham, vous savez, c'est avec vous que je me suis converti. » Quelle gloire pour l'évangéliste, hein. Il était plein comme une outre et il disait « C'est avec vous que je me suis converti. » Vous voyez, mes frères et sœurs, il y en a beaucoup qui peuvent avoir le titre de chrétien et qui pensent qu'ils sont chrétiens, mais avec lesquels il n'y a pas de possibilité d'être en communion vraiment. Regardez ce qui s'est passé. Moïse a dit « Nous passerons seulement, nous ferons que passer ». Et même si nous utilisons quelque chose, eh bien, nous paierons. Alors, on ne peut pas être plus clair. Et ils se sont opposés. Ils ont dit, non, tu ne passeras pas. Mes frères et sœurs, cherchez la communion avec certaines personnes, simplement parce que nous croyons que ce sont de véritables chrétiens, alors que leur comportement, leur manière d'agir et de faire est en opposition avec l'Écriture, ça, c'est incompatible. Et nous verrons que même leur écrit et tout s'oppose à la vraie vie de l'Esprit. Je ne suis pas en train d'être devant vos yeux comme quelqu'un de sectaire, parce que je ne me fie pas aux dénominations. Et je suis heureux de pouvoir dire que finalement, maintenant, j'en suis débarrassé de toutes. Je suis un enfant de Dieu comme vous êtes enfant de Dieu, membre de la famille de Dieu. Mais quand on est enfermé dans quelque chose qui est un système qui, dans le fond, est contraire au plan de Dieu, nous rencontrerons toujours des oppositions. Mais nous, peu importe, il faut que nous sachions où nous allons. Le chemin, c'est Christ. La voie, c'est Christ. Et pour être conduit dans cette voie, il nous faut le secours du Saint-Esprit. Et Dieu pourvoira à tout le reste, parce que c'est un Dieu fidèle, bon et juste. J'espère avoir été clair. Que Dieu vous bénisse et vous aide à comprendre.